Écologie, biodiversité, agriculture biologique. Environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer et partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpementcel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpementcel sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe Alpementcel. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpementcel.
À présent, je vous invite du côté de Bayet à la rencontre de Philippe Guéné, un passionné de nos amis à plumes et plus particulièrement de la construction de leur habitat. Monsieur Guéné, bonjour.
Bonjour.
Je vous invite pour commencer à vous présenter.
Je m'appelle Philippe Guéné, je suis à la retraite, j'ai 62 ans. Je suis né à Saint-Germain-de-Coulles-la-Mer dans la Mayenne. Voilà. J'ai commencé à travailler dans la Mayenne, je suis venu en Sarthe, j'ai suivi ma compagne, voilà.
Vous avez commencé votre activité autour du bois peu de temps après votre mise en retraite anticipée pour raison médicale. Une maladie encore peu connue, mais qui occasionne un véritable handicap au quotidien. Il s'agit de la maladie de Guélineau, plus communément appelée narcolepsie cataplexie. Alors, quelles sont les caractéristiques de celle-ci?
Alors, au début, c'est une maladie surprenante, parce que au début, à chaque fois qu'on a des émotions, on peut tomber. Tous nos muscles nous lâchent, les jambes, les bras, la colonne vertébrale, tout nous lâche. Et à un moment donné, si on se concentre pas beaucoup, on tombe, voilà. Et puis l'autre partie, c'est la narcolepsie. On est assis et puis on s'endort très très rapidement, c'est-à-dire 30 secondes. J'ai vu, moi, être à mon bureau et commencer à m'endormir. Il y avait pourtant un lit à côté. J'ai pas le temps d'aller sur le lit, hein, et je m'effondre sur le lit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et le plus gênant, c'est la cataplexie quand même, parce que ça empêche de conduire. Moi, je faisais beaucoup de vélo avant cette maladie. Je faisais 5000 km par an. Et je pouvais plus faire de vélo parce que si j'avais une crise sur le vélo, c'était catastrophique. Il fallait pas que je tombe, quoi. Et pour la moindre chose, je faisais une crise de cataplexie. Aller à la boîte aux lettres, c'était compliqué. Ramener un plat du four sur la table, c'était compliqué. Monter un escalier, c'était compliqué. Tout est compliqué avec la cataplexie.
Il y a des signes avant-coureurs de cette maladie. Est-ce que vous ressentez le moment où vous allez tout lâcher finalement?
Alors j'ai consulté au moment où j'ai tout lâché, c'est pas très long, hein, c'est 5 secondes après, avant vous sentez que ça va venir, hein, c'est fou, ça va très très vite.
Et c'est une maladie qui a été décelée il y a peu, mais est-ce que c'est une maladie qui vous suit depuis votre plus jeune âge ou est-ce que vous...
C'est ça que je voulais vous dire. J'ai consulté plusieurs neurologues et elles m'ont toutes dit que cette maladie-là elle commence souvent à l'adolescence et peut-être même avant. Voilà. Et donc à la primaire, je dormais tout le temps. Au CE1, CE2, CM1, CM2, je dormais tout le temps. J'avais un instituteur qui était vraiment con. Il me réveillait à grand coup de claque. Là, j'étais réveillé d'un seul coup, quoi. Et je pense que ça commençait à l'école. Et puis pour ça, j'aimais pas l'école, quoi. J'ai jamais rien foutu à l'école à cause de ça, je pense.
Après le diagnostic de cette maladie, très récemment, vous vous êtes pris de passion pour les oiseaux et plus particulièrement pour la confection de leur nichoir. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé.
Eh bien, ça s'est passé. J'avais un voisin en face de chez moi. Je dis j'avais parce qu'il est décédé depuis. Et il était passionné par les oiseaux. Il avait une vingtaine de nichoirs chez lui. Puis un jour, je vais boire un café chez lui et par terre, il y avait un nichoir qu'il avait commandé. Et je lui demandais, Jacqueline, vous pouvez me prêter votre nichoir, j'essaierai bien d'en faire un. Donc ça a commencé par ça. Les premiers nichoirs que j'ai faits, c'était pas terrible quand même. Hein. C'était à peine vendable, mais je les ai vendus quand même. Alors, c'était quand même, il devait être bien pour certains. Et donc ça m'a plu, j'ai continué à en faire. Puis ça me plaisait. Au premier marché de Noël, j'en ai vendu quelques-uns. Pas beaucoup, et puis surtout sur le Bon Coin, je vendais tous mes nichoirs sur le Bon Coin facilement parce qu'ils étaient pas chers. J'avais commencé à des prix vraiment pas raisonnables pour moi parce que je gagnais pas d'argent. Voilà.
Et aujourd'hui, combien de modèles différents confectionnez-vous?
J'en ai 10 modèles pour l'instant. Mais c'est-à-dire que ça roule parce que il y a des modèles que j'abandonne, il y a des nouveaux modèles que je crée, et là-dedans j'essaye de voir lesquels qui se vendent le plus, si vous voulez. Si j'ai un modèle qui se vend pas là sur mes collections, là j'ai des modèles qui partent pas, là je suis forcé de les solder parce que il y a 2 ans que je les ai. Les prochaines foires que je vais faire, là, je vais les solder à -10 parce que faut que je me débarrasse des trucs. Et pourtant ils sont pas mal, mais les gens ils en veulent pas. Ils ont pas de forme spéciale, donc ce qui marche c'est les formes spéciales, les petits nichoirs et les toitures, tout ça. Mais les nichoirs qui sont carrés avec un toit plat, les gens ils aiment pas trop.
Donc c'est des nichoirs qui sont pour une espèce particulière, par exemple pour les mésanges ou pour plusieurs espèces?
Eh bien, moi je travaille surtout pour les mésanges. J'ai amené ma documentation, là, je vais vous dire pourquoi je travaille. Je travaille pour les mésanges noirs, les nonnettes, c'est des petites mésanges simples. Et des mésanges bleus, UP, elles sont un petit peu plus grosses, et la mésange charbonnière. Mais je peux travailler aussi pour le pigeon colombin, la chouette chevêche, la chouette hulotte, le torcol familier, le huppé facier, le pique-pêche, le rouge-queue à front blanc, le citelle corche-peau, grain pro, chouca des tours, moineau friquet, moineau domestique, faucon créfelle, la bergeronnette, le rouge-gorge, gobe-mouche, rouge-queue et chouca des tours. Vous voyez, je peux faire... c'est large mon truc. Hein. J'expose que vraiment des nichoirs à mésanges. Et aussi des mésanges à rouge-gorge, voilà. Parce qu'on m'en demande beaucoup des nichoirs à rouge-gorge et j'en vends aussi, voilà.
Donc des nichoirs que vous créez sur demande ou que vous créez puis que vous vendez après
Je fais pas de sur demande parce que le problème, je suis tout seul et quand on fait du sur demande, ça veut dire que on peut pas créer nos stocks et si on fait de la surdemande, on va pas y arriver. Et donc je préfère vendre ce que j'ai et puis je dis aux gens, revenez vers moi et j'en aurai sûrement. C'est dans mes cordes de fabriquer ces nichoirs.
Et combien de temps mettez-vous pour en confectionner un dans son intégralité?
En moyenne, c'est une journée. Parce qu'il y a plusieurs passages sur un nichoir. Il y a le découpage de la planche. Pour le bois, j'utilise du lamellé-collé. C'est un bois qui est fait à partir des chutes de pin, qui est collé ensemble, et puis ça refait une planche bien lisse, tout ça, raboté. Je trouve que ça passe. Hein. Bon, c'est un petit peu plus cher qu'en Syrie, mais... j'utilise pas de bois de scierie parce qu'il faut le raboter et tout, ça serait encore plus long. Donc je trouve ça pratique, le lamellé-collé de 18 mm, c'est important parce que je suis la LPO, si vous voulez. J'ai une carte de la LPO et ils donnent
des recommandations pour la conception des nichoirs.
Ouais, voilà, c'est ça. Et il donne des recommandations, faut que ça fasse 18 mm. Là, j'ai bientôt je faisais le trou à 30 mm. Avant, je mettais des petits perforoirs devant le trou. On m'a dit que c'était pas bien. Donc, je vais supprimer les trous sur les prochains FR, les perforoirs plutôt, parce que le fameux perforoir, un prédateur peut s'accrocher là-dessus pour aller chercher les petits dans le fond.
Donc une activité qui occupe quand même une grande partie de votre temps, si je me trompe.
Mais vous m'avez posé la question, je mets une journée par nichoir. Hein, parce que il y a plusieurs opérations, je disais qu'il y a la découpe du bois, c'est des plans de 0,60 par 2 mètres, on découpe le bois, après on va le travailler à la toupie, parce que je fais des moulures et tout ça dessus, je vais le travailler à la toupie, après il y a le collage, après il y a le perçage, et puis je mets des tourillons de bois, avec de la colle. Bah après je fais un petit coup de ponçage et puis un petit coup de rebouche trou et puis voilà, ça fait une journée. Je me presse pas, hein, je suis à la retraite, donc je prends mon temps. Hein. Une journée c'est bien. Bon bah vu les prix que je vends, je gagne pas d'argent dessus, mais c'est pas grave. Moi l'argent ça m'intéresse pas. Hein. C'est surtout un passe-temps. C'est vraiment un passe-temps, moi. Et puis j'adore le bois, j'adore les oiseaux, et ça c'est vraiment. Puis ce que j'aime bien, c'est d'aller sur les marchés, les foires. On rencontre des gens qu'on connaît pas et on discute avec ces personnes-là, c'est bien.
Et avant de commencer cette activité, vous aviez déjà des compétences et qualifications dans le domaine du bois ?
Non, je vais vous expliquer comment ça m'est venu. Mon père était mécanicien agricole dans un petit hameau. Quand j'étais jeune, et à côté de chez mon père, il y avait une scierie qui débitait. Il y avait, c'était pas une scierie, c'était un charron qui construisait des plateaux pour les agriculteurs. Et dans ce temps-là, les plateaux ils étaient faits en bois. Et donc, je faisais de la scierie. Et à chaque fois que j'entendais la raboteuse tourner, ben j'allais les voir. Ça me faisait énormément le bois, le bruit de la raboteuse avec une planche de bois dedans, c'était et c'est là que ça m'a plu. Je sais pas pourquoi j'ai dérivé après, mais j'aurais dû faire menuisier. Enfin bon.
Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier. Une histoire en blanc et noir, le film était de Jacques Becker. Avec la fille la plus belle, dans un café français, un menuisier dansait, mais rangeait les violoncelles. Elle était l'idée fixe d'un dénommé Félix, dont les gilets fleuris faisaient peur dans Paris. Le menuisier dansait et la fille l'aimait. Et c'était pour la vie, elle s'appelait Marie. Mais à l'heure où Paris dort, un voyou qui trépasse dans le fond d'une impasse, fait accuser de sa mort. L'ouvrier qui enlace la fille au casque d'or. Tous les chats étaient gris et les lumières éteintes. Mais Félix a tout dit en buvant son absinthe. Alors Marie, en larmes, voit venir les gendarmes. Au ciné de mon quartier, on peut voir depuis avant-hier comment meurt en blanc et noir un homme qui a jamais vu la mer. Quand tombe la guillotine sur le coup de mandat, il s'appelait mandat, c'est l'amour qu'on assassine. Et la valse repasse et le film se termine. Un menuisier dansait et la fille l'aimait.
Et cette valse-là, une femme dans mes bras, la danse comme personne, et c'était toi, Simone.
Et côté actualité, des dates peuvent-elles d'ores et déjà être annoncées sur l'antenne ?
Le 17 septembre, brocante de la Saint-Maurice à Béillé. Le 7 octobre, je serai à Sainte-Corneille pour le marché de Noël. Le 15 octobre, je serai à Troc-Plante à Béillé. Troc-Plante, c'est les grains de pollen. C'est une association qui fait des échanges de plantes. Et comme je suis pas loin de chez eux, là, je suis à 500 mètres, le couple m'invite tous les ans au mois d'octobre, comme c'est leur dernière, le dernier troc-plante, si vous voulez, ils m'invitent. Je prends pas mal de contacts là, j'en vends quelques-uns, mais je prends beaucoup de contacts. Et puis, faut savoir que les gens qui ont des grands jardins, qui viennent aux troc-plantes, ils ont des grands jardins souvent, et ils sont super intéressés que dans les grands jardins il y ait des oiseaux, et ils sont intéressés par les nichoirs. Le 12 novembre, je serai au marché de Noël à Saint-Mexant. Le 26 novembre, je serai au marché de Noël à Tuffé. Tuffé, c'est un beau marché de Noël parce que il y a beaucoup de monde, et comme on dit, c'est un marché acheteur. Ça veut dire que les gens, il y a beaucoup de monde et puis les gens sont acheteurs. Et c'est super intéressant. Et le 9 décembre, ce sera au marché de Noël à Duneau. À Duneau, c'est pareil, c'est un bon marché. C'est pas loin de Tuffé, mais je le fais quand même parce que c'est un beau marché et je devrais bien fonctionner là aussi. Si mes dates fonctionnent cette année, l'année prochaine, je pourrais doubler le nombre de dates, voilà. Parce que j'ai eu beaucoup de demandes cette année et j'en ai refusé certaines, voilà. Pour l'année prochaine, je vais refaire des nouveautés. Là, je compte refaire beaucoup de nouveautés. Et je peux rajouter aussi que j'ai fait un nouveau stand. Au lieu de exposer à plat, j'expose verticalement. J'ai fait un très beau stand et c'est à voir. J'en fais 5 hein, parce que par rapport à mon stock, il faut pas que je prenne trop de marchés par rapport au stock que j'ai, parce que si je m'amène à des marchés et que j'ai plus de stock, ça va peut-être pas aller. Et d'après l'article du journal Le Maine, j'ai quand même eu 10 demandes. Donc j'ai pu en prendre que 5 parce que 10 c'était trop pour moi par rapport à mon stock. J'aurais bien fait les 10, mais voilà.
Mais là, nous allons arriver à la bonne période pour installer ces nichoirs en vue d'apporter un abri douillet pour nos amis à plumes. Alors, en ce sens, auriez-vous quelques petits conseils quant à l'installation de ceux-ci ?
Le nichoir, pour moi, on l'installe au début de l'année, à peu près. De façon à ce que, par exemple, les mésanges fassent leur tour et les repèrent un petit peu. Les nichoirs de mésanges, on les installe à 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 50. Le mieux, c'est dans des arbres. C'est là qu'ils doivent être posés parce que dans des arbres, elles n'ont pas trop peur. On les installe sud-est, normalement. Faut surtout pas les installer face, l'entrée face au vent dominant. Parce que si c'est vent dominant, pour les petits, il y a tout le temps du vent qui rentre dans le nichoir, hein, c'est pas bon. Voilà. À part ça, faut rien mettre dedans. Parce qu'il y en a qui seraient tentés de mettre un petit peu de foin, un petit peu d'herbe et tout ça. Dans le cas de la mésange, c'est elle qui fait tout. Elle met 45 jours à faire le nid. Quand elle a décidé de faire son nid là, elle met 45 jours. C'est fou hein, de voir le temps qu'elle met à faire le nid. Elle met 45 jours à faire le nid. Je parle de la mésange parce que c'est l'oiseau que je connais le mieux. Et la mésange, elle fait 2 portées de 5 oisillons. Voilà.
Et concernant l'entretien de ces nichoirs, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de spécifique ?
à partir du moment où vous le posez, et jusqu'au mois de novembre à peu près, ne pas l'ouvrir. Parce que si vous l'ouvrez au mois de juin, alors qu'elle a une deuxième lycée à faire, elle va pas revenir faire sa deuxième lycée. Surtout ne pas ouvrir. Et pour être sûr de sûr, moi je conseille de les ramasser au mois de novembre et de retirer tout ce qu'il y a dedans et passer les brosser avec de l'eau et un petit peu d'eau de javel pour enlever tout ce qu'il y a comme insectes. Voilà. Et moi je conseille de les rentrer de novembre à janvier, ça leur fait du bien quand même. Et puis de leur donner un coup d'huile de lin par là même, parce que ça ouais, l'entretien aussi c'est important. Parce que faut pas mettre des lasures, des peintures, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent peindre les nichoirs. Moi, je suis pas d'accord, parce que c'est un répulsif. Tous les produits O8, c'est répulsif. Et moi, je conseille que de l'huile de lin. Et pas à l'intérieur, à l'extérieur, c'est tout.
Et côté actualité de Créafibois, avez-vous des projets ou des dates à retenir?
Ben, j'ai les 5 dates que je vous ai dit, là, mais ça va... Pour l'instant, non, c'est pas trop de projet, mais ça revient au fur et à mesure. L'année prochaine, je vais avoir des contacts. Là, en fin d'année, j'en ai eu, et puis tous les gens que je rencontre me disent que mes nichoirs sont super beaux. Je suis assez heureux d'entendre ça parce que ça fait plaisir de. Mais c'est souvent des connaisseurs qui me disent ça, des gens de jardin et tout ça. Mais là, j'ai été aux 25 ans de grains de pollen. Les gens, j'en ai vendu beaucoup de nichoirs. Les gens me disaient, ben, ils sont super beaux vos trucs. Hein, changez pas. Hein. Des nichoirs comme ça, on n'en voit pas. Hein, c'est parce que moi, je les travaille et tout. Je fais des moulures dessus et tout. J'essaye qu'ils soient attirant, voilà.
Avant de nous quitter, je vais vous inviter à nous donner vos contacts pour nos auditeurs qui souhaiteraient notamment se procurer l'une de vos créations.
Ben, mes contacts, mon téléphone déjà, 06 31 28 23 39. Ben, mon adresse, 18 rue de la Gare, 72 160 Ligny. Et puis, ils peuvent aller voir sur Facebook, j'ai Guéné Philippe. Et j'ai une page Créafibois aussi.
Monsieur Guéné, je vous remercie pour votre participation sur notre antenne et je vous souhaite une très bonne continuation et une belle aventure.
Je vous remercie. Au revoir.
Au revoir.
Si on avait tous de la terre dans les mains, les racines de la vie, les racines pour la vie. Regardez l'horizon, les pieds dans les foins, pour que poussent les fleurs, vienne la pluie. Si on avait tous de la terre dans les cœurs, les racines de la vie, les racines de l'humanité. Sentir les regains dans les vents d'été. Et que poussent les fleurs aux mille couleurs. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre, dans la terre de leur père, mais dans la terre de leur môme. Balayer la terre dans le dos des hommes. Il y a qu'en haut qu'on gagne la récolte des graines. Il y a qu'en haut qu'on chante du pognon dans les veines. Mais c'est dans la terre que meurent les hommes. dans le vent des campagnes, on entend les cris. Dans le vent des campagnes, on peut sentir la vie. Paysans de la terre, paysans qu'on oublie. Paysans pour la vie, un suicide chaque nuit. Monsieur le Président, il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre. Dans la terre de leur père. Mais dans la terre de leur môme. Pourtant, quoi de plus beau qu'un champ de blé sous le soleil, un trèfle à quatre feuilles, toutes les merveilles. Quoi de plus beau, quoi de plus beau. Il y a des hommes qui pleurent sur le bord des rivières. Il y a des hommes qui meurent sous le poids de leur terre. Dans la terre de leur père. Mais dans la terre de leur môme. Si on avait tous de la terre dans les cœurs, les racines de la vie, les racines de l'humanité. Sentir les regards dans les vents d'été. Et que poussent les fleurs aux mille couleurs.